Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on s'aventure à nos risques et périls dans une vision terrifiante d'un Québec post-apocalyptique. Venez découvrir avec nous tous les dangers qui rôderaient dans notre province si elle était en proie à une invasion de zombies ou à un deuxième mandat au pouvoir de la CAQ. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Bon, c'est fini le niaisage, c'est enfin le temps de consacrer un épisode complet à un film fait ici au Québec. Et pas n'importe lequel, hein. On va aborder notre premier long-métrage de zombie qui a reçu le support complet de nos institutions de financement cinématographique. Ça, c'est une chose que bien des gens n'auraient jamais cru voir de leur vivant. C'est pour ça que le film Les Affamés peut déjà être considéré comme un événement historique de notre cinéma national. En plus, le résultat final est loin d'être un film de genre passable qu'on oublie peu de temps après l'avoir vu. Bien au contraire. Les Affamés contient beaucoup d'éléments qui le distinguent de la myriade de films et de séries télé du même genre qui sont sortis depuis le début des années 2000. Que ce soit la réalisation réfléchie et immersive de Robin Aubert, la distribution d'acteurs tout étoiles qu'il a assemblé, ou même le comportement atypique des créatures zombifiées, ce long métrage a tout ce qu'il faut pour plaire, non seulement à tous les amateurs de bons films de genre, mais aussi à tous les cinéphiles à la recherche d'un film de qualité. Bref, tout est pas mal en place pour une discussion passionnante en compagnie de mon invité. Lui et moi espérons sincèrement vous donner envie de découvrir ou de revisiter à nouveau ce film foutrement bien fait. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement tous nos précédents épisodes sur les plateformes SoundCloud, Réseau et Balado Québec. Vous avez juste à écrire le nom du podcast dans leur moteur de recherche pour accéder à tout notre contenu. N'hésitez pas à aimer et à partager le podcast à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook du podcast au facebook.com/podcastscop pour connaître avant tout le monde les détails des nouveaux épisodes à venir. Chers auditeurs et auditrices, c'est maintenant le temps de charger nos fusils, de faire nos prières pour espérer survivre aux hordes de zombies qui nous attendent. Le film Les Affamés, l'année 2017, réalisé par Robin Aubert et mettant en vedette Marc-André Grondin, qui doit sérieusement commencer à se demander s'il interprétera à nouveau un personnage qui n'a pas les cheveux rasés. Micheline Langteau, qui est instantanément devenue la plus belle femme jamais montrée dans le cinéma québécois dès le moment où elle tient dans ses mains un fusil à pompe. Et Monia Chokri, qui nous offre une...
Vous approchez pas, bande de pourris! Vous approchez pas! Vous voulez m'avoir? Venez me chercher! Venez me chercher, bande de pourris! Allez, venez-vous-en! Regardez, j'ai quelque chose pour vous autres! Allez, venez-vous-en! Bon, je vais vous plomber! Vous plombez, allez, venez-vous-en! Vous voulez mes tripes? Allez, venez vous étouffer avec! Étouffez-vous avec!
Et on est de retour, chers auditeurs, et on passe à l'action immédiatement. Et oui, enfin, on parle du fameux Les Affamés. Et pour m'accompagner cet après-midi, je suis allé vous chercher quelqu'un qui s'y connaît dans tous ces domaines-là. Alors, je vous présente sans plus attendre. Si vous écoutez beaucoup les ondes radio à Montréal et de tout acabit, eh bien, il est réalisateur, chroniqueur et même parfois animateur à l'émission Au pied du lit, diffusée à CIBL. Il est aussi chroniqueur à l'émission Radio X-Files, qui est diffusée sur Chouette FM, Radio X à Québec. Et ben, comme c'était pas assez, il est aussi chroniqueur sur le site web Horreur Québec. Je vous le présente, Jason Paré. Jason, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut, ben ça va bien et toi?
Ça va super bien. Hey, écoute, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bienvenue pour la première fois derrière les micros à 100 commentaires ou presque. Je suis bien content de t'avoir.
Ben oui, ça me fait plaisir. Je m'ennuyais des podcasts de Clair Obscur, donc je suis content de pouvoir participer à ton nouveau projet.
Eh hey, ben merci beaucoup. Ben tout le plaisir est pour moi de te recevoir. Les Affamés, ben on en discute immédiatement. Puis ben comme d'habitude, je vais y aller avec la petite question brise-glace. Moi, j'aimerais savoir, vu qu'on va discuter de films de zombies aujourd'hui, tu me raconterais-tu ta première fois où t'as vu un film de zombies. T'avais quel âge? C'était quoi ce film-là? C'était quoi l'expérience en général? Je t'écoute.
Ben, je me souviens pas de l'âge exactement. Je devais peut-être avoir 13 ans autour de ça. Et dans mes souvenirs, je crois que c'est le remake de Night of the Living Dead fait par Tom Savini. Et ça avait joué soit à TQS ou à TVA à minuit du soir. Donc, je l'écoutais dans le sous-sol, le volume pas trop élevé pour pas déranger mes parents qui dorment. Et ça m'avait vraiment marqué comme production. Ça a vraiment été pour moi comme un peu de Thing. J'avais découvert de Thing de la même manière. C'est des souvenirs qui sont flous, mais qui demeurent forts pour moi.
Qui restent intenses.
C'est ça. Et je dirais qu'après, tout l'intérêt que j'ai eu pour les zombies puis les morts-vivants, c'est surtout la suite de la sortie du jeu Resident Evil.
Ça, c'est deux classiques indémodables. Ça, en fait, Jason, on est les atomes crochus là-dessus, parce que de mon côté aussi, le premier film de zombies que je me souviens consciemment d'avoir vu, c'était aussi le remake de Night of the Living Dead de Tom Savini. Ce qui était drôle, je pense en sixième année ou en secondaire 1, il y avait un de mes amis de classe qui avait tapé ça sur une cassette VHS, aussi à TVA le soir, à Ciné-Lune, quelque chose de genre.
Pendant Ciné-Lune.
Puis pendant une semaine, tout le monde se passait ce VHS là, puis finalement c'était à mon tour de l'avoir, et je me souviens, même si c'est un remake que bien des gens disent qu'il est inférieur bien sûr à la version de George Romero, moi honnêtement il me laisse toujours un bon feeling. Je me sens toujours un petit peu angoissé en voyant cette espèce d'impression de claustrophobie là parmi les gens pognés dans la maison qui doivent survivre à des hordes de zombies. Plus aussi, ben, Tony Todd est super bon également dans ce film là, les effets visuels sont bien,
l'actrice aussi que j'ai oublié son nom, mais...
Oui, la petite rousse avec la coupe genre en champignon, quelque chose de genre.
Oui, exact. Tu sais, on dit qu'il est inférieur, mais on peut dire aussi qu'il est juste différent. C'est sûr qu'il est moins original, moins, tu sais. N'empêche que je trouve que c'est un film qui est efficace, qui avait certaines forces que le premier avait pas, comme le personnage féminin justement qu'on vient de nommer, qui est plus fort, plus impliqué que l'autre qui est juste dans le film original de Romero. Sur le divan en train de paniquer puis complètement inutile, tu sais.
Tout à fait. Puis aussi, ça donnait un film quand même qui se tient très très bien, parce que au départ, ça c'était simplement une excuse déguisée de la part de Romero pour essayer de réacquérir les droits d'auteur de son Night of the Living Dead. Alors les amis à la maison, si vous faites un film, mettez un copyright s'il vous plaît sur votre titre, OK, pour pas que ça tombe dans le domaine public puis que des gens fassent du cash sur votre dos. Là maintenant, on va sauter dans le vif du sujet. Je te repose la même question. Notre film d'aujourd'hui, Les Affamés, quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois?
Ben tardivement, mais c'est l'année passée. Probablement après les Iris, hein, c'est plus les Jutras, les Iris, faut que je m'habitue.
Attention, le nom qu'on ne peut pas prononcer commence par J,
tu mettras un bip. Et je l'ai vu, je pense, après, si je me souviens bien, et c'est sur le PlayStation Store, hein, je fais du placement de produits.
Tu l'as vraiment vu tardivement, ok.
Oui, je l'ai pas vu en salle, je vois de moins en moins, j'avoue, au cinéma. Comme il était pas disponible en vidéo dans les clubs vidéo ou dans ceux qui restent, il a fallu que j'attende que ça sorte sur, effectivement, le PlayStation Store. Surtout que, bon, Netflix, les droits pour ce qui est du Canada sont encore bloqués pour l'instant.
Oui.
Donc, voilà, c'est là que je l'ai vu.
Intéressant, au moins tu l'as vu dans le confort de ta maison. Mm-hmm. C'est parfait, sûrement en bonne compagnie. Moi, je l'ai vu, je me suis assuré de le voir dès qu'il est sorti sur les écrans. C'est ultimement, il a eu sa première il y a 2 ans au Festival du Nouveau Cinéma. Puis dès que j'ai vu qu'il était à la programmation, je me suis assuré vraiment dès les premières minutes de la mise en vente de me pogner quelques billets pour ça. Au départ, je voulais inviter moi, mon ami Tina, je voulais inviter également, tu sais, Anne-Marie de Claire Obscure, dont on parlait finalement, elle a été indisponible ce soir-là. Donc, j'ai invité quelqu'un d'autre également. Fait que là, j'étais avec comme 2 bons amis au cinéma Impérial, la plus belle salle de cinéma en ville, à mon sens. Puis, la salle était bondée, c'était super, les acteurs étaient là, Robin Aubert était là avec toute sa toute nouvelle coupe de cheveux assez fantastique. Oh. Plus aussi, ce que j'aimais bien, c'est que, bon, par la force des choses, la salle était pleine. Moi, je me suis retrouvé finalement dans un banc près de 2 speakers et mon Dieu que j'ai pu profiter de la conception sonore absolument délicieuse de ce film-là. On va y venir tantôt, effectivement, mais j'étais vraiment en première loge pour avoir vraiment l'espèce de feeling son et image. Vraiment génial, puis aussi avec un petit peu le gratin montréalais qui était là de films de genre.
Tu l'as peut-être dû, mais c'était-tu à l'Impérial?
À l'Impérial, en effet.
C'est une salle qui vaut la peine pour des premières films.
Écoute, je regarderais tous mes films à l'Impérial, honnêtement. D'ailleurs, Fantasia, ça me brise toujours le cœur quand ça se passe pas là.
Ouais. Ben, au moins, ils ont changé leur siège là à l'Université Concordia, donc c'est déjà un peu plus confortable qu'avant.
À 3-4 films, là, genre par jour, honnêtement, le derrière me faisait mal.
Ouais,
là,
c'est ça, exact.
Fait que, ouais, ben, heureusement, tant mieux pour ça, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai vu Les Affaires. Ça a été une très très belle expérience, plus pour supporter le film. Je suis retourné le voir en salle aussi avec des amis, le payer de ma poche, etc. Puis au moins j'ai fait ma petite contribution pour montrer à nos institutions qu'un film enfin de genre de zombies financé par les institutions, ça a son public, puis le public est prêt à payer pour ça. Alors au moins j'ai fait ma part. Maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on explore les différents aspects scénaristiques, la mise en scène, etc., pour ceux qui n'ont peut-être pas vu encore le film, moi je ferai un petit résumé résumé de l'histoire afin que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Alors, ça va comme suit. Suite à la prolifération inexpliquée de zombies dans toutes les régions du Québec, un petit groupe hétéroclite de gens sillonne la campagne à la recherche d'un refuge. Dans l'atteinte de ce but, le groupe doit quotidiennement résister aux hordes de morts vivants, tout en étant témoin de mystérieux comportements jamais vus auparavant chez ces zombies-là. Ça ressemble un petit peu à ça, sans rentrer dans les spoilers. Mm-hmm. Parlant, de scénario, on irait tout de suite. D'habitude, je commence toujours par les personnages, mais là, je veux m'attaquer au scénario en tout début, parce que je sais que, toi et moi, on écrit, on réalise des films, etc., mm-hmm. donc on est assez fort sur la scénarisation. Je voulais parler en premier un peu de composition, de l'histoire et des péripéties. Normalement, depuis que les films de zombies existent, il y a quoi, à peu près 3-4 variantes, normalement, de scénarios, de structures que les gens utilisent pour faire leurs films de zombies. Là, celle des affamés, Robin Aubert, dans son scénario, je pense qu'il a joué safe. C'est-à-dire qu'il a pris la formule très établie qui est, on va suivre un groupe de survivants. À travers certaines péripéties, on va trouver d'autres membres qui vont se joindre à ce groupe-là. Par la suite, on part à la recherche d'un lieu sécur qu'on a entendu parler, qui promet un refuge, qui promet des vivres, qui promet peut-être une cure, quelque chose du genre. Et en direction de cet endroit-là sécur, malheureusement, le groupe va perdre des membres par rapport à des attaques de zombies. Donc, normalement, c'est à peu près ça, la structure traditionnelle, et c'est celle qui est présente dans Les Affamés. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu trouves que c'est un choix safe, qu'on aurait pu faire plus, ou que t'aurais aimé voir peut-être une variation un peu plus québécoise, ou peut-être un peu plus d'originalité du côté du scénario? Mmh. Qu'est-ce que t'en as trouvé?
Disons que la variation québécoise se retrouve peut-être pas dans la structure de base, qui est effectivement plus classique. Aussi, ça se passe dans un milieu isolé, comme le premier de Romero, Night of the Living Dead, ce qui permet quand même de sauver un peu de moyens. Une ville envahie comme Montréal ou New York ou quoi que ce soit, c'est toujours un peu plus complexe au niveau...
C'est assez coûteux, oui.
Coûteux, c'est plus compliqué d'un point de vue logistique, tout ça. Donc, c'est pas un reproche que je ferais au film de Robin Aubert de prendre cette structure-là. Je pense que son originalité ou sa différence est ailleurs, au niveau du traitement des personnages ou au niveau de certaines thématiques qui sont peut-être propres au cinéma québécois, sur lesquelles on va probablement revenir. Mais pour en soi, la structure, elle me va bien.
C'est ça, exactement, parce que, garde les choses simples, cette structure-là a fait ses preuves, elle fonctionne, le public a pas l'air de s'en tanner, et elle est bien exécutée, honnêtement. Moi, personnellement, dans la série des péripéties, je ne me suis pas ennuyé. Le film, de la manière dont il est fait, réussit à garder l'intérêt du spectateur. Même si c'est une structure qu'on a déjà vue, elle ne me dérange pas, j'ai entendu personne s'en plaindre non plus, alors tant mieux pour ça.
Et il y a certains films qui vont choisir des fois de... exemple, ça pourrait être une infection, une invasion qui se fait juste dans un lieu isolé et qui se fait pas ailleurs. Là, il semble que ça soit partout. Donc, il a fait ce choix-là. Et aussi que ça a déjà eu lieu. Des fois, dans certains films, c'est que ça commence. Je sais pas, moi, exemple, World War Z, où là, on voit tout le début de l'épidémie. Donc là, non, ça a eu lieu. On voit ce que font les survivants suite à la chute finalement de notre société.
C'est ça, on passe à l'essentiel, parce que souvent dans les films de zombies, c'est jamais révélé ou presque la cause justement de cette prolifération de zombies. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Je pense que le plus effrayant, c'est carrément de se retrouver devant le fait accompli, devant les restes, devant les décombres de cette société-là qui a été envahie par ces créatures-là. Tu sais, moi, je suis toujours fan de voir, admettons, un building ou une rue ou un véhicule avec une grosse main ensanglantée qui traîne. Tu sais, ça fait travailler l'imagination. Tu t'imagines, mon Dieu, quelle scène horrible a fait en sorte qu'on en est arrivé là. Puis, il y a beaucoup de plans dans ce film-là, dans Les Affamés, où est-ce que c'est ça carrément? Surtout dans les premières 15 minutes, on voit beaucoup, justement, l'après-fait de toutes ces attaques-là. Et ce que tu t'imagines, c'est sûrement pire que ce que tu aurais vu à l'écran. C'est ça qui est formidable.
Oui, parce que je pense que dans le cas du film de Robin Aubert aussi, c'est un prétexte. Que ce soit un film de zombies ou pas, on va y revenir un peu tantôt.
C'est quoi, mais... Jason? Oui. Jason, je sens que t'as envie d'en parler, ok?
Ça me démange.
Oui, je sais que tu as un petit point de vue unique là-dessus, tu sais, ta conception de la chose, et j'aimerais que tu m'en parles.
Okay? Je pense pas que c'est complètement unique. George Romero était lui-même très réticent à des zombies qui courent, par prétexte, entre autres, que la rigidité cadavérique d'un cadavre, finalement, d'un macabée, ne permet pas à cette créature-là de courir. C'est aussi parce que, ce qui a inspiré Romero au départ pour ce type de film-là, c'est un film catastrophe où la société s'est effondrée à cause d'une épidémie, d'une infection, d'une contamination, peu importe, et que ça transforme les êtres humains en créatures anthropophages. Bon, mais ce qui a inspiré à la base Romero pour ça, c'est le roman I Am a Legend, Je suis une légende, exactement, de Richard Matheson. Et c'était quoi dans le roman?
Bien, ils ont eu tellement de variations, ces créatures-là.
Mais c'est à la base, c'est des vampires, à la base. Ce sont des vampires dans le roman. C'est ce que aussi est dans le film avec Will Smith et ce qui était aussi dans le film original, le premier qui a été fait avec Vincent Price, oui. Last Man on Earth. C'est des vampires. Dans le film avec Vincent Price, c'est intéressant parce qu'ils sont lents, ils ressemblent beaucoup à des zombies. C'est un film qui a été fait avant celui de Romero. Et c'est que, c'est à cause, le maudit, c'est à cause du film 28 jours plus tard de Danny Boyle que là, il y a eu la mode des zombies, que je mets en guillemets,
qui courent. C'est ça.
Et ça, malgré le fait que Danny Boyle se défendait d'avoir fait un film de zombies, il a toujours dit non, ce sont des infectés, ce ne sont pas des zombies. Pourquoi, entre autres? Parce que pour être un zombie, un mort-vivant, ça le dit, un vampire, c'est un mort-vivant aussi. Mais pour être un mort-vivant, il faut mourir. Il faut que l'infection te tue, ou les morsures, là, te tue avant de devenir un vampire. Dans le cas de Danny Boyle, une simple goutte de sang dans l'œil, tout d'un coup, transformait la personne en créature enragée. Donc, même lui se défendait d'avoir fait ça à l'époque. Les créatures dans Resident Evil, le jeu vidéo, il n'y a pas juste des zombies dans le jeu vidéo Resident Evil.
Il y a plein de sortes de mutants,
les queues, entre autres, et tout ça. Mais les zombies étaient lents. Puis c'est quand Anderson a fait son film que tout d'un coup, les zombies étaient rendus plus rapides, parce que ça a été la mode du début des années 2000. Et c'est que ça permet aussi de faire des films qui sont plus orientés sur l'action. Ça donne l'impression qu'ils sont plus dangereux, ce qui est peut-être le cas, mais ce qui était intéressant avec les films de zombies, c'est pas la créature en soi qui était dangereuse, c'était son nombre. C'était vraiment le nombre qui était dangereux. Donc pour moi, le film de zombies du 21e siècle, en fait, c'est une hybridation entre les zombies, les vampires et je dirais même les démons, les possédés. Hein? Dans Wreck, exemple, les films espagnols.
Tout à fait,
dans le premier Wreck, au départ, on pense que c'est des zombies. Puis quand on est rendu dans le deuxième, on découvre qu'en fait, c'est des gens qui sont possédés comme la petite Linda Blair dans Exorcist. Puis les démons, exemple,
démonies, de film de... c'est ça. Exactement. Bingo, exactement.
Donc c'est une hybridation de tous ces films-là. Pour moi, ces créatures-là sont pas nécessairement des zombies. On pourrait se questionner là-dessus. D'ailleurs, ça s'appelle les affamés, hein, ça s'appelle pas les zombies. Mais ce que je dis, c'est que les créatures elles-mêmes ne sont pas nécessairement des zombies. Par contre, le terme film de zombie est devenu un terme générique qui désigne finalement tous les films catastrophes où la société s'est effondrée à cause d'une épidémie qui transforme, je reviens à ça, les gens en créatures anthropophages. Donc, si on le voit comme un terme générique, je l'accepte. Je mets de l'eau dans mon vin progressivement
oui,
et je l'accepte.
Pour les besoins
mais
de notre
si on
épisode,
veut y aller de façon plus puriste sur la créature elle-même, est-ce que c'est réellement des zombies? Là, j'ai un doute.
On va y revenir parce que les affamés contient de ces créatures-là avec certaines variantes assez intéressantes. On va y revenir tantôt, mais je comprends parfaitement ton point de vue sur ce que tu viens de nous expliquer.
Parfait.
On va en revenir toujours au scénario, donc on a parlé un petit peu de la structure. Là, bien sûr, on est dans le cinéma québécois, puis souvent le cinéma québécois a jamais fait la même chose que bien d'autres cinémas nationaux à travers le monde. Et là, bon, on s'approprie grâce aux affamés le film d'horreur / film de zombie, et c'est important d'y mettre son ingrédient à soi. Même. Dans le fond, cette petite touche, où est-ce qu'on va se reconnaître en tant que peuple québécois là-dedans, etc.
Oui.
As-tu trouvé un québéquisme, si on veut, dans cette structure du film de zombies pour les affamés? As-tu trouvé un petit quelque chose que tu peux dire oui ou non?
Je te dis oui. C'est sûr qu'on s'entend que les films de zombies, c'est souvent le cas, mais au Québec, on a tendance à faire des films extrêmement tragiques. Pas quand c'est une comédie, la comédie de l'été avec Louis-José Houd. Mais on a tendance, au niveau de notre cinéma d'auteur, même si j'aime pas trop le terme, mais à faire des films extrêmement tragiques. Il y avait un critique qui disait justement que les gens meurent plus dans le cinéma québécois que dans d'autres cinématographies. Donc ça, cet aspect-là est extrêmement présent. Hein. Je veux pas vendre trop de spoilers. Mais je sais pas si on peut le faire, en fait, mais de vendre trop de spoilers par rapport à... Bon, mais tu sais, dans Les Affamés, vers la fin, je te dis que la quasi-entièreté du casting y passe. Hein. Donc ça, c'est assez classique du cinéma québécois. On est un peuple un peu suicidaire, je dirais, d'une certaine manière. Les morts sont rarement aussi héroïques. Hein, c'est vraiment un sacrifice, je me sacrifie pour les autres. Donc, il y a ça qui est propre au cinéma québécois. Puis aussi sur l'accent sur la famille. Puis là, je parle pas de la famille typique, là, un peu, c'était dans Quiet One, là, où là, c'est le père avec sa femme et ses enfants.
Quiet Place, c'est ça?
Quiet Place, okay. Pardon, c'est ça. Je parle pas de la structure très classique, très américaine de la famille, mais plutôt la famille élargie, les oncles, les tantes, tout ça, qui souvent symbolise un microcosme. Hein, on le voit dans, Tremblay. Le dramaturge Tremblay a fait son pain et son beurre là-dessus, la famille qui éclate, et c'est que ça représente un microcosme de notre société. Et c'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans le film de Robin Aubert. chaque personnage, même s'ils sont pas réellement tous de la même famille, crée une espèce de noyau familial, un peu comme ce qu'il y avait dans les Walking Dead aussi, la série. Et chacun a un rôle très précis qui crée une symbolique, en fait, par rapport à des rôles très précis dans la société. Donc, je pense que ça, ce sont des éléments qui sont propres, peut-être pas propres, uniques au cinéma québécois, mais qui sont très présents au cinéma québécois puis qu'on retrouve dans Les Affamés.
Bingo, écoute, j'aurais pas pu mieux dire moi-même. Moi, j'ai remarqué aussi beaucoup de choses, encore une fois, qui rebondissent beaucoup sur ce que t'as dit. Une des tropes qu'on remarque dans notre cinéma d'ici, c'est beaucoup le héros ne gagne pas. Mm-hmm. On perd souvent à la fin. Et comme tu l'as mentionné, il y a pas de victoire à la fin des Affamés. Tous nos personnages principaux ne s'en sortent pas. Donc, on peut pas dire que notre groupe ou un des leaders du groupe identifié depuis le début du film survit, s'en sort. Finalement, c'est le personnage qui, normalement, dans la vraie vie, aurait le moins de chances de s'en sortir, qui survit. Mais pour les besoins du cinéma, et ben d'habitude, souvent, les enfants sont assez invincibles dans les films d'horreur, à part certaines exceptions. Et Les Affamés n'y fait pas exception. Mais voilà, notre héros qu'on pense qui survivrait ne survit pas.
L'échec référendaire est jamais loin. Hein?
C'est ça, exactement. C'est ça. Et aussi, ben, on qualifie beaucoup le Québec comme une société matriarcale.
Oui.
Plusieurs des meilleurs personnages de ce groupe-là de survivants sont composés par des femmes. Des femmes de plusieurs générations.
Des figures maternelles,
exactement.
Beaucoup.
Exactement. Écoute, on va revenir avec le personnage joué par Micheline Langteau. Mm-hmm. Il y a aussi celui de, je pense, sa sœur, qui est joué par Marie-Ginette Guay également. Deux personnes que moi, j'aimerais ça avoir comme mère puis grand-mère. Il y a aussi, bon, on parlait de d'autres femmes. Il y a le personnage de Monia Chokri, Tania également.
Qui devient une figure maternelle qui, si je peux me permettre, ressemble énormément à Sigourney Weaver dans le deuxième Alien.
Tu trouves?
Oui, ben j'explique que c'est à cause d'une scène. Pas dans l'entièreté, mais il y a un moment donné où quand elle retrouve la petite fille, là...
Newt?
Oui, ben là, dans Aliens,
okay,
mais
moi,
aussi dans le film Les Affamés, il retrouve la petite fille qui est cachée dans la chambre.
Comment celle-là? C'est la belle Zoé, la mystérieuse?
C'est ça, bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui nettoie le visage parce qu'elle est recouverte comme une espèce de peinture blanche, je sais pas quoi, et il y a une relation qui se fait entre les deux où... Boop, sur le nez. Il se passe exactement la même chose avec Newt quand Sigourney Weaver lui essuie la suie.
C'est vrai.
L'essuie, ça se dit bien. Dans le visage, donc, on va probablement revenir là-dessus, mais Robin Aubert, ça paraît qu'il aime le cinéma de genre. Et c'est pas le seul clin d'œil que j'ai vu à des grands classiques, mais celui-là, je trouve que effectivement on voit le côté maternel du personnage aussi. Et Brigitte Poupard, ben, c'est la mère brisée, en fait. Mais elle aussi, elle se représente ça aussi. Une autre forme de maternité, mais...
Tu parlais un peu à la Ripley, t'as fait le comparatif là-dessus. Je trouvais aussi que Brigitte Poupard a beaucoup aussi de ce personnage fort-là en elle.
Mais la Ripley du troisième, là. On dirait vraiment celle qui a perdu ses enfants. C'est celle qui arrive dans le troisième Alien, t'sais. Donc là, c'est la femme plus brisée et beaucoup plus... forte, qui a plus rien à perdre, finalement.
Donc, voilà, il y a beaucoup de matriarcat là-dedans. Les personnages les plus forts sont féminins. Tant mieux, je n'ai rien contre. Alors, c'est un peu les touches très québécoises, typiques de notre cinéma que j'ai retrouvées dans la structure. On pourrait pas passer non plus sous silence pour n'importe qui va regarder dès les premières minutes Les Affamés jusqu'à la fin pour voir les très, très importantes et bien faites touches d'humour là-dedans, les touches humoristiques tout le long, chez des personnages, dans les situations. J'ai toujours trouvé que le cinéma d'horreur, puis l'humour, c'est indissociable carrément. C'est extrêmement important pour tes spectateurs aussi, leur donner après un moment intense, juste un petit moment de ouf, pour se calmer un petit peu l'esprit avant de retourner dans l'horreur incarnée. Et mon Dieu que Robin Aubert a bien compris ça, puis il l'a fait de manière intelligente. Je trouve ces touches d'humour, principalement dans les dialogues, bien sûr, il n'y a rien de slapstick, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très intelligent. Il n'est pas tombé, mettons, dans l'humour un peu comme l'aurait fait, mettons, Shaun of the Dead ou n'importe quoi. C'est pas l'humour visuel ni rien, c'est vraiment dans les dialogues, dans la construction des personnages, puis ça va rendre certains personnages extrêmement attachants dès les premières lignes.
À une exception près,
oui.
De Mers.
Ah oui,
lui on tombe un petit peu dans le slapstick. On dirait qu'il est sorti d'une pièce de La Tulipe, là, je veux dire. Donc lui est quand même complètement décalé au reste, mais c'est le seul. C'est le seul, je dirais, qui est vraiment comme décalé au niveau de l'humour. Mais...
Exactement. Je pense que c'est cette volonté-là de juste relaxer tes spectateurs, mais monter à 400%, effectivement. Mm. Mais il est bienvenu.
Il passe au cash.
Il est bienvenu. Il est là pour créer un effet choc qui ne l'est pas, mais partout où est-ce que j'ai regardé ce film-là, en salle ou dans mon salon avec des amis, ça fonctionne tout le temps. Les arrivées de Demers, moi, je vois mes amis sur sauter, puis à la fin, juste pousser un « Ah! » Tu sais, genre, j'ai eu peur, mais OK, c'est pas vrai, c'est un faux. Et je trouve que c'est bien fait. Parlant de petites touches d'humour qui marchent à chaque fois pour contrebalancer des moments extrêmement dramatiques, parce qu'il y a, dans ce film-là, Les Affamés, beaucoup d'humour à l'intérieur, de moments dramatiques. Vraiment, on switch sur un 10 scènes, un drame peut devenir drôle et quelque chose de drôle peut devenir dramatique en un instant. Je vais te montrer un des meilleurs exemples, selon moi, et Dieu sait que ce film-là en a, mais je veux t'en montrer un de mes préférés. On va regarder un petit extrait où est-ce que, ben, on va voir un dialogue dialogue entre le personnage de Bonin, joué par Marc-André Grondin, et Didier Lucien, qui incarne Vézina. Oui, puis en passant, un petit aparté, Didier Lucien, j'aurais pris un film, genre, avec lui comme personnage principal, Anytime. Il est formidable dans ce film.
Ben, franchement, si on peut faire une critique, il y en a quelques-unes, mais une des critiques, je trouve, c'est le fait que son rôle part trop vite.
C'est ça, exactement. Départ.
Ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'effectivement, c'est un acteur qu'on aimerait voir davantage.
D'un naturel.
Et j'ai trouvé sa mort extrêmement frustrante. Et en plus, je trouve que ça voyons, moi je peux dire ça, ça répond à un cliché du noir qui meurt dès le début, qui c'est le premier à mourir.
Aïe.
Ça, j'ai fait comme, voyons, que c'est ça. Je trouvais vraiment que, à moi qui voulais justement en faire une blague, ce que j'ai pas compris, mais je trouve qu'il est tombé dans un cliché du cinéma d'horreur qui est vraiment dommage.
Il aurait pu être le Tony Todd, genre du remake de Night of the Living Dead, c'est-à-dire celui qui se rend jusqu'à la fin ou quelque chose du genre. En tout cas, je vous propose à la maison de regarder un petit bout d'une conversation entre ces deux personnages-là dans un moment assez dramatique, vous allez voir.
Avoir su, je l'avais dit pour y aller. Non, non. Avoir su, on se croit. Avoir su, j'aurais sorti tout mon argent de la banque. J'aurais été voir Mickey Mouse comme j'avais promis au petit. Toi?
Ta blonde à son jour.
Cathy?
Je serais allé cogner à sa porte avec un bouquet de fleurs, là. Puis j'aurais dit, hey Cathy, sais-tu quoi? Je t'ai toujours trouvé de mon goût. Je sais bien pas ce que tu fais avec le cœur à ton genre. Puis là, elle m'a sacré une baffe parce qu'elle m'a toujours haï, anyway.
À l'école, tu riais d'elle avec ses broches.
C'est ma façon de dire que je l'ai trouvé de mon goût.
C'était pas.
Tu sais?
Non. L'idée d'aller cogner à sa porte. Dans tout ce que t'aurais pu faire, c'est ça que t'aurais fait. Tu peux bien préférer Roger Moore à Sean Connery, mon esti.
À ton cours des années, c'est prévisible. Si tout est à refaire, est-ce que tu choisis d'aller voir une souris géante qui fait des tatas, puis moi recevoir une taloche de Cathy Valère? Ouais, ça montre que ça tient pas grand-chose.
Donc, je pense que c'est un exemple, effectivement, assez flagrant de ce qu'on parlait. Puis moi, je suis toujours heureux d'avoir une référence à Roger Moore dans mes films.
Ben oui, je te reconnais partout. Là, toi. Je me suis dit, là, tout de suite, quand je l'ai entendu, je fais, ah, OK, c'est ça. C'est ça qu'il voulait me montrer par cet extrait.
Ah, tout à fait. Écoute, quand je l'ai vu en grande première, écoute, j'ai fait un standing ovation tout seul dans la salle après ce moment-là. J'étais très heureux.
T'es comme Grondin. Tu préfères Roger Moore à Sean Connery.
Ah, littéralement. Anytime. Sacré Roger. Quel homme. On peut peut-être parler maintenant des personnages, vu qu'on a fait la rencontre, des deux premiers, c'est-à-dire Bonin et Vézina. On peut parler des autres ici. On peut faire le tour assez rapidement. Bon, comme je mentionnais, Bonin, qui est joué par Marc-André Grondin. On va avoir également Tania, joué par Monia Chokri. On va avoir Pauline, qui est joué par Micheline Langteau, et etc., etc. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est parce que souvent dans les films, principalement américains de zombies ou d'horreur, on va toujours avoir les archétypes. C'est-à-dire, on va avoir le beau jeune homme qui, d'habitude, est sur l'équipe de football. On va avoir la fille quand même assez entreprenante, on va avoir, comme tu as mentionné, la personne de couleur, on va avoir le nerd qui connaît toutes les règles du film d'horreur aussi. On va sûrement avoir un kid de temps en temps, un jeune enfant qui va peut-être se joindre au groupe. Tu sais, beaucoup d'archétypes comme ça, tu sais,
souvent un archétype qui est là puis qui est absent de les affamés, puis tant mieux.
C'est ça que je veux voir. Est-ce que tu vois ces archétypes-là?
Peut-être un petit peu, mais un de ceux qui est là, généralement, puis au moins qui est absent, c'est celui qui vient foutre le bordel. Le trou de cul de la gang.
Oui, exactement.
Night of the Living Dead, t'as le de famille qui est caché dans le sous-sol, puis dans les Walking Dead, t'as souvent ça aussi. C'est l'espèce de trou de cul qui fait les pires gaffes, qui prend les pires décisions, qui vient détruire en fait la cohésion du groupe. C'est souvent un prétexte qu'on trouve dans les films d'horreur parce qu'on trouve pas d'autres raisons de faire avancer l'action, d'autres manières de faire avancer l'action. Donc ça, au moins, c'est un des archétypes qui est absent, puis que je pense que c'est une très bonne chose.
Oui, non, c'est ça que j'ai aimé. Puis ces personnages-là, ce que j'aime, c'est qu'ils sont simples. On prendra pas nécessairement le temps de, parce que toujours quand on parle de films de zombies, on parle toujours d'un moment obligatoire où est-ce que il va y avoir le personnage qui va raconter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où est-ce que l'invasion de zombies s'est passée? Qui l'a perdu? Comment il a perdu sa blonde? Comment son enfant est mort? Etc. Ça, on ne l'a pas. En fait, on l'a un petit peu parce que moi, j'ai le Blu-ray à la maison, puis il y a une grosse section des scènes coupées au montage. Et la majorité des scènes coupées au montage, c'est ça. C'est ces moments où est-ce que les personnages expliquent qu'est-ce qui leur est arrivé, qui ils ont perdu, comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là, pris au dépourvu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que avec le montage final, on arrive encore une fois, comme je le disais, devant le fait accompli. Ces personnages-là ont vécu un traumatisme, mais ils perdent pas de temps à s'en parler. C'est ça qui est le fun. On va parler d'autres choses. Tu sais, il y a un Bonin qui aurait pu effectivement raconter son histoire, mais non, il raconte des jokes.
C'est une bonne chose parce que, un, ça conserve le mystère. Ce qui est très bien. Aussi, il y a sur le film de Robin Aubert, les acteurs sont tellement talentueux que c'est pas nécessaire. Des fois, avec des acteurs un peu moins bons, t'as besoin de, pour les approfondir, qui expliquent leur malheur, donc ça le permet d'adhérer au personnage. Ce qui est pas nécessaire parce que les acteurs sont tous excellents. Et par exemple, pour le personnage de Brigitte Poupard, mm-hmm. on comprend très bien avec le fait qu'il y a un siège pour bébé à l'arrière de sa voiture, qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle a perdu sa famille. Elle le dit un peu dans le film, à un moment donné, qu'elle était partie, j'étais partie chez l'esthéticienne, tu sais, puis qu'elle a été, était pas avec son mari et ses enfants. Donc, on le sait un petit peu pourquoi elle a été séparée de sa famille.
On comprend qu'elle n'a pas peur, elle a tout perdu, qu'elle a pas peur, justement, de sortir la machette puis carrément aller au corps à corps. D'ailleurs, c'est sa scène d'introduction, carrément.
Superbe, cette scène-là.
Exactement. On n'a pas besoin de rien dire. On voit qu'elle n'a pas peur d'aller combattre. Elle a pas peur, justement, de risquer sa vie pour sauver la sienne.
C'est du Marjo en
c'est
plus.
Ça. La fureur de vivre! On ne le dit pas, on le voit. C'est ce qu'il faut faire au cinéma, montre, ne dit pas.
Deux personnages qui me plaisent beaucoup aussi, c'est Réal et Le Ticu. Moi, Luc Pro, c'est un acteur que j'adore. Je trouve qu'il est d'un naturel bluffant. On le voit pas assez, en fait. On le voit toujours en vouloir des petits rôles, des seconds rôles, mais on le voit pas assez. Et j'étais très, très heureux de le voir dans ce film-là. C'est pas les personnages les plus importants du film, mais encore là, le jeune, on voit ce qui s'est passé. Il a probablement dû éliminer sa famille ou... Et non, je trouve que c'est des personnages qui sont peut-être pas mis de l'avant autant que les autres. La seule chose que je me demande, c'est pourquoi il se débarrasse de son cheval. Il me semble que c'est tellement pratique un cheval pour se promener à la campagne. Mais bon, à part de ça, je trouve que c'est deux personnages qui sont vraiment intéressants.
On va y aller. Moi, c'était le prochain point que je voulais aborder avec toi. On parlait de Réal. Moi, j'adore sa petite phrase d'introduction. Salut, je m'appelle Réal. Vous m'avez peut-être vu dans le journal. Donc, ça rime.
Ouais.
cette petite rime-là. La prochaine question, c'était à savoir, est-ce qu'il y a trop de personnages dans ce film-là? Parce que moi, la première fois que je suis sorti de ce film-là, c'était mon seul point qui avait accroché. Je trouvais qu'il y avait trop de personnages. T'as mentionné Ticu, le jeune garçon, et Réal. Je trouve que c'est des personnages qui auraient pu être enlevés du scénario. Ticu, je l'aurais probablement gardé un peu plus longtemps parce que son introduction, elle est fantastique. Parce qu'on voit que c'est un jeune garçon qui a compris un peu la game, c'est-à-dire le mécanisme de cette attaque de zombies-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont infectés par je ne sais quoi, qui vont essayer d'en manger d'autres, et dès que t'es mordu, tu vas inéluctablement te transformer en ce genre de créature-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre? Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'être attaqué par ces créatures-là? On doit les prendre, les tuer, les enterrer, puis d'être. On voit qu'il l'a fait avec des proches. On comprend dans un autre flashback qu'il l'a probablement fait avec quelqu'un très près de lui, qui est probablement sa mère. Ultimement, j'ai des problèmes avec le fait que à la fin, il se fait avoir, il se fait mordre, et il se fait mordre comme un amateur parce qu'il, encore une fois, lui et le personnage de Réal ont l'air très près, ils font du chemin ensemble tout le long du film avant de rencontrer les personnages principaux. À un moment donné, Réal, on le voit qu'il est mordu quand même et qu'il fait son petit bonhomme de chemin quand même pour suivre le groupe. Il s'éloigne dans la forêt, Ticu le cherche, encore une fois, monsieur, vous êtes où? Réal se transforme, il mange carrément, en fait, il mord Ticu. Ça aurait pas dû arriver, ça, Ticu aurait dû prendre son fusil et immédiatement le tuer ou quelque chose du genre. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé le personnage un petit peu inégal. Comme tu l'as très bien dit dans un autre de mes épisodes, ça m'a fait chier.
Ok, j'ai dit ça, moi. Non, mais en fait, je trouve pas qu'il y a trop de personnages, mais peut-être ça donne cette impression-là parce qu'ils sont mal exploités. Peut-être s'ils avaient été mieux intégrés au reste, mieux exploités, peut-être t'aurais moins cette impression-là. Mais je peux pas dire que ça m'a dérangé en soi. C'est juste que les autres personnages qui sont secondaires meurent rapidement. On a fait mention tantôt de Didier Lucien. C'est la même chose aussi avec le personnage Brouillette. Il meurt rapidement. Donc, c'est peut-être pas les personnages les plus utiles, mais c'est sûr, ça aurait été difficile de faire un film où tous les personnages ont la même importance aussi.
C'est ça, il faut qu'il y ait des dommages collatéraux. Mmh. Il faut qu'il y ait des personnages un peu plus secondaires, qui se transforment, qui attaquent le groupe de l'intérieur, effectivement.
C'est Demers qui est en fait le plus décalé du reste. Je comprends la touche d'humour que ça apporte. C'est peut-être même un pied de nez au jumpscare que Robin Aubert voulait faire. Il y a une utilité humoristique, mais scénaristique, je suis pas convaincu.
Ah, c'est ça, c'est un mécanisme, mais encore une fois, tu sais, faut pas trop s'en faire là-dessus. De toute façon, il apparaît quelques instants puis il fait pas mal au film, tout simplement. Comme je le disais, au niveau des personnages, je pense que c'est mon seul petit bémol, peut-être un ou deux personnages de trop, mais c'est pas grave, le film continue quand même de bien équilibrer les choses tout de même. Ils ont un rôle à remplir, ils le remplissent ultimement.
Puis pour ce qui est de Micheline Langteau, elle aussi se démarque énormément.
Seigneur.
On est content de la voir avec un fusil à pompe.
Écoute, comme je disais, c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans l'histoire du cinéma québécois. Micheline Langteau avec un gros 12 pompeux dans les mains.
Mais en fait, ça rappelle la vraie nature de Bernadette, où là c'était une carabine, mais qui se met à tirer à partir d'un viaduc sur les voitures, si je me souviens bien. Donc, c'est pas la première fois qu'on voyait Micheline Langteau avec une arme à la main. Mais oui, elle, c'est un personnage très fort. Ça collègue, partenaire.
Ouais, je pense qu'ils sont dans la même famille. Je sais pas si c'est sa sœur ou quelque chose. Genre, c'est Thérèse.
Ouais, c'est des amis. Ben, on comprend que c'est la mère adoptive de Didier Lucien. C'est ce qu'on comprend aussi de Thérèse. Elle, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la passe des cornichons. Parce que c'est quasiment l'Eucharistie qu'elle est en train de faire quand ils sont en train de donner les cornichons. Donc, on parlait d'éléments québécois, contrairement aux États-Unis. Le catholicisme, c'est quand même quelque chose qui est important dans notre identité, même si on s'en est débarrassé au tournant des années 60-70. Et ça, c'est vraiment une scène forte aussi, parce que veut pas, c'est quelque chose qui est très rattaché encore là à la famille. Je revenais là-dessus tantôt. Puis je trouve que c'est intéressant que bon, ce soit des pickles, qui soit le corps du Christ, ce soit des pickles finalement. Donc je trouve ça très drôle.
Effectivement, il y a tout un sous-texte là-dedans. On n'a pas le temps d'embarquer dedans, mais il y a quelque chose à discuter là-dedans. Je trouve ça très intéressant. Parlant de rencontres entre les personnages, mais j'avais un autre petit extrait. Je voudrais montrer la première rencontre entre Bonin et Tania, qui est jouée par Monia Chokri. À un moment donné, Bonin va rentrer dans son camp de chasse. Il va voir une jeune fille attachée au pied du lit. Plutôt et bâillonné. Il remarque qu'elle a une morsure sur la main. Alors, je vais vous montrer cette rencontre-là entre les deux. Et encore une fois, portez attention au petit mélange de sérieux et de comédie dont on parlait tantôt.
Si je te dis ce qui va se passer, au début de ça, pas ce qui t'arrive. Si tu es dans l'eau, dans l'air, dans nos gènes, je sais pas. Peut-être que ça a mal de tête. Tu vas des nausées. Le lendemain, ta peau va commencer à faire des taches. Mm. Tu vas vouloir voir un médecin. Comme tous les autres, il est disparu dans la brume. Un autre jour passe. Tu recommences à prendre des forces. Même si tes doigts noircissent et tu craches de la menace. La première affaire, tu vas t'apercevoir. T'es agenouillé sur le plancher de la cuisine. En train de focoyer dans le ventre de la personne que t'aimes le plus.
J'entends pas ce que tu me dis, on m'a bouché les oreilles.
Mais c'est ça, cette rupture de ton-là, je la trouve, encore une fois, bien menée. Tu sais, on est vraiment dans le monologue extrêmement glauque, extrêmement tiré des meilleurs films de zombies, puis finalement, je l'ai pas entendu. C'est bien fait, carrément. C'est une petite variante, encore une fois, sur les attentes des spectateurs, sur les attentes de ce que contient un film de zombies classique. C'est tout à l'honneur de Robin Aubert d'avoir pensé à mettre ça dans son film. Maintenant, ben, on parlait un peu des personnages principaux. Ben, il faut absolument pas passer à côté, ben, des autres personnages. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce film-là, c'est-à-dire, faut parler de nos zombies là-dedans.
Oui.
Parce que, ben, comme on l'a mentionné un petit peu, ils ont des variantes assez intéressantes comparativement aux autres zombies un peu plus classiques qu'on voit dans d'autres cinémas, admettons américains ou européens, asiatiques, quelque chose du genre. Nos zombies, eux autres aussi, ont un peu leur touche unique. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est ce film-là. J'ai toujours dit que Les Affamés a énormément de contenu qui, quand on va en discuter, va être aussi bon ou meilleur que le film en tant que tel. Puis, je trouve que cette origine des zombies-là, leur comportement, c'est quelque chose, c'est un sujet de discussion riche, parce que tout le monde peut avoir sa théorie là-dedans. Alors bon, on va y aller avec nos zombies. Selon toi, même si c'est pas discuté dans le film, quelle pourrait être cette cause-là d'épidémie, genre?
Ben franchement, j'en ai aucune idée. J'ai des idées au niveau du sous-texte que Robin Aubert voulait apporter avec ces créatures-là, mais franchement, qu'est-ce qui est la cause de ça? Ça pourrait être n'importe quoi, hein? On en revient à ça dans les autres films, un satellite qui s'est écrasé avec un truc radioactif, un virus, tu sais. Je pense que ça... Toutes les hypothèses pourraient être bonnes, finalement.
Bref, on s'en fout, ultimement, parce que c'est le résultat qui compte et non pas... On n'est pas intéressé à la cause.
C'est exactement ça. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est le sous-texte, puis aussi à quelle autre créature qu'on peut faire référence. Leur cri est extrêmement important. Moi, ça me faisait penser un petit peu à Body Snatcher, où justement, quand ils voient un être humain, ils le pointent du doigt, ils se mettent à hurler d'une exponentielle. Je pense qu'il y a ça qui est intéressant, et justement, ben, si on peut y aller, c'est au niveau de la critique du consumérisme, du matérialisme, je pense, qui est derrière ça. Hein, l'accumulation d'objets, les enfants qui accumulent leurs jouets. Bon, il y a beaucoup de chaises, mais c'est pas uniquement les chaises que les créatures accumulent. Donc, cette espèce de tendance-là des êtres humains de réunir autour de soi une quantité d'objets qui est inutile, une forme de conformisme, c'était ça dans Body Snatcher aussi, c'est le conformisme, une forme de fascisme à la limite, mais de conformisme. Je pense que c'est tout ce sous-texte-là qui finalement amène à notre aliénation et qui est le sous-texte que, parce qu'on veut pas, on s'en souvient avec Saint-Martyr des damnés, Robin Aubert, des fois les sous-textes sont extrêmement cryptés. Là, je pense que c'est quand même un peu plus clair. On se demande pourquoi que les créatures, je veux dire concrètement dans le film, pourquoi ils font ça, réunir des objets, là. Mais le sous-texte, je pense qu'il est assez clair.
Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, ben, tout le long du film, on voit ces zombies-là qui sont en train de traîner des chaises, des objets personnels, qui sont en train de les mettre en gros amoncellement de monolithes. Puis aussi, ben, ces monolithes-là semblent dégager une espèce de bruit strident, une espèce d'onde très, très stridente. Moi, j'ai jamais vu ça dans d'autres films de zombies, honnêtement. C'est ça que je trouve qui fait un peu l'unicité. C'est jamais révélé pourquoi. Encore une fois, on a des monolithes. C'est jamais révélé pourquoi ils font ce espèce de bruit-là. Mais c'est là où est-ce que la discussion embarque. Où est-ce que, genre, moi, je me suis souvent assis avec du monde autour d'une bière pour en discuter. Et j'espère qu'à la maison, si vous écoutez le film après notre podcast, ben, si vous allez avoir le plaisir d'avoir ces discussions-là, parce que, tu sais ça, comme je dis, c'est assez unique dans le comportement des zombies. C'est pas juste, encore une fois, cerveau, manger de la chair, n'importe quoi. Ils ont une espèce de comportement pas société, je dirais, mais de groupe, parce qu'ils ont l'air d'être affairés à quelque chose. Pourquoi, pendant combien de temps ils vont le faire, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose là-dedans, je trouve.
Moi, j'attendais qu'ils mettent le feu. Je me suis dit peut-être qu'ils voulaient célébrer la Saint-Jean. Ils voulaient célébrer la Saint-Jean, mais ça revient un peu, tu sais, les affamés, le titre n'est pas gratuit non plus. Cette espèce de tendance au consumérisme, à la consommation, ça fait partie aussi de cette rage-là de vouloir dévorer les autres. On dévore les autres d'un point de vue, ok, oui, alimentaire, mais aussi des fois pour prendre leur place. On est dans une société compétitive, on veut prendre la place de notre collègue devant les yeux de notre boss, etc. Et c'était présent énormément aussi dans le film Dawn of the Dead de Romero, qui se passait dans un centre d'achat. Cette idée-là de la population qui est comme hypnotisée, zombifiée finalement par rapport à des valeurs qui sont rattachées beaucoup à l'argent, à la consommation, tout ça. C'est un classique dans le film de zombies. Puis je pense que Robin Aubert l'a simplement interprété ou symbolisé à sa manière.
Là. C'est un peu triste, même, genre, complètement zombifié, ben on pourra pas sortir de ces habitudes-là qu'on avait de notre vivant. Mm-hmm. C'est plutôt déprimant comme truc. Hey, faut parler, on en parle depuis tantôt, faut parler un peu de mise en scène, faut parler de Robin Aubert, qui a fait un très très beau travail avec ce film-là. Moi, je prétends que Robin Aubert, c'était tout à fait l'homme de la situation pour ça. Je pense que pour nous livrer un produit unique de la sorte, personne d'autre aurait pu faire un meilleur travail que lui ultimement, parce que je trouve qu'il a un background intéressant dans le cinéma de genre. Tu avais assurément vu Saint-Martyr des damnés, qui était un espèce de melting pot de différents genres ultimement, complètement unique, puis complètement prenant comme film, honnêtement, une belle bébite cinématographique, complètement sautée.
Je pense qu'il y avait trop d'influence, il y avait trop de pistes différentes, il s'était mal digéré.
Tellement,
on le sent que c'est un amoureux du cinéma de genre, puis c'est important parce qu'il y a des gens des fois qui vont essayer de s'inspirer de certains types de films mais qui méprisent le genre, puis moi non, je fais du cinéma d'auteur, etc., puis qui vont essayer de faire quelque chose de beaucoup plus pédant et beaucoup plus et non, au moins Robin Aubert, même si son cinéma est très empreint par sa personnalité puis que ça reste du cinéma intelligent, ça n'empêche pas que tu le ressens qu'il est amoureux du cinéma de genre. Et je mentionnais tantôt les références à Aliens, mais c'est pas la seule référence qui me semble apparaître dans le film. Il y a un travelling à un moment donné où on voit les différents personnages qui marchent dans le bois. Et bon, c'est ça, on voit les arbres qui passent en avant-plan de la caméra. Donc un travelling latéral. Et c'est que là, on est sur un personnage. Et là, la caméra passe à un autre personnage, mais qui est pas à la même distance de la caméra. Et là, on fait un rack focus, qu'on appelle. Donc, on va juste ajuster le focus en conséquence. Et là, on voit vraiment tous les personnages un après l'autre. Et c'est là, justement, je pense que Luke Proulx, à un moment donné, suit plus le groupe.
Okay.
Moi, en tout cas, ça m'a rappelé Predator de John McTiernan, où il y a justement, premièrement, dans Predator de McTiernan, t'as jamais vu une jungle aussi touffue. On est étouffé par la jungle. Il a vraiment parvenu à filmer ce milieu qui normalement est extrêmement difficile. Il y a des lianes partout. C'est pas pour rien qu'on avance à la machette dans la jungle normalement. Et c'est le même genre de travelling là où les personnages sont pas à la même distance de la caméra. On joue avec le rack focus. À mon avis, si c'est pas un hommage, il s'est inspiré de ce plan de vue-là pour cette scène-là, puis qui est une façon intéressante de passer d'un personnage à l'autre puis de voir un peu leur état d'âme à ce moment-là précis. Une des forces aussi de Robin Aubert, je pense, c'est sa sensibilité. Il y a une sensibilité qui est très forte. On le sent au niveau de la plupart de ses films. Le cri de son père, l'origine d'un cri. Ça rajoute, je pense, c'est ça qui a ajouté énormément de profondeur au personnage puis beaucoup de crédibilité à l'histoire.
D'ailleurs, c'est-tu moi où j'ai l'impression d'avoir vu une référence dans Les Affamés à l'origine d'un cri? Parce que à l'origine d'un cri, il y a un personnage qui a une robe rouge assez importante. Puis, c'est-tu moi où j'ai l'impression d'avoir vu un zombie avec exactement la même robe rouge? Dans la fameuse scène où est-ce que il y a Bonin puis Tania qui sauvent en pick-up de l'attaque de zombies avec Robert Brouillette. Il y a Tania qui regarde à un moment donné par la fenêtre avoir un paquet de zombies, puis son regard s'arrête sur une femme avec une robe rouge qui est un zombie aussi. Puis la bande sonore change complètement. Il y a un silence qui est mis juste pour qu'on mette l'emphase sur ce zombie-là. Je suis en train de me dire, y a-tu fait une référence là-dedans? C'est-tu la même robe? Quelque chose du genre? Tant mieux s'il fait une référence à un autre de ses films là-dedans. Puis parlant d'un autre de ses films, je voulais revenir à Saint-Martyr des Damnés. Effectivement, c'est la critique qu'il a souvent entendue, c'est-à-dire qu'il y a trop de références, il y a trop de mélange de genres là-dedans. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que Robert Humbert semble avoir appris de ça, parce que si Les Affamés avaient été faits peut-être un an ou deux après Saint-Martyr des Damnés, je suis pas mal sûr que Humbert aurait tombé un peu dans le même pattern, c'est-à-dire, et ça aurait probablement quelque chose de complètement sauté, tandis que là, je l'ai senti beaucoup plus mature, je l'ai senti beaucoup plus axé sur la tâche à faire, c'est-à-dire, montre-moi simplement un film avec des zombies, des personnages attachants et une histoire crédible. Fais-moi ça simple, fais-moi ça à ton image.
C'est extrêmement épuré.
Exactement, c'est là où je voulais en venir. Alors, il y a une belle maîtrise, tant mieux, ça nous montre un cinéaste mature, un cinéaste qui était prêt maintenant à faire ce film-là, puis à le faire de la bonne manière. Merci Robin, c'est très très cool. Faut parler aussi du rythme de ce film-là. Beaucoup de gens, encore une fois, disent que c'est un mélange parfait de films de genre et de films d'auteur, si on veut. Robin Aubert a mis aussi un peu sa griffe là-dedans, avec certains moments où est-ce qu'on peut se reposer, certains moments lents de contemplation, je pense, ou à ce moment où est-ce que Brigitte Poupard, après avoir mis fin aux souffrances de Ticu, revient dans une petite cabane, se nettoie le visage en se regardant dans le miroir. Ça aurait pu durer peut-être une minute de moins, ce plan-là, mais il nous montre au moins le personnage en train juste de relaxer, de contempler ce qu'elle a fait, de se nettoyer, de contrôler ses émotions à l'intérieur qu'elle a dû finir sûrement à la machette ou au fusil un jeune garçon. Alors on a ce moment-là avec ce personnage-là pour l'accompagner, pour voir comment elle est avec la situation. Il y en a d'autres comme ça à d'autres moments. C'est pas effréné comme rythme, c'est pas des coupures de montage genre qui durent 2 secondes, quelque chose de genre. Le film prend le temps d'être, de bien nous montrer les choses, espace bien aussi les moments de développement de personnages ainsi que les moments d'action.
Oui, ben c'est un film qui est quand même extrêmement lent. Il se passe pas grand-chose. Je pense que ça l'a déplu à certains. Les films lents, généralement, pour certains amateurs de films d'horreur, ça les intéresse pas trop. C'est pas le seul. Je dois avouer que comme il sort pas beaucoup des sentiers battus, parce que des fois, il y a des films qui sont très lents, mais qui nous surprennent au tournant. C'est peut-être pas tant le cas que ça dans le film de Robin Aubert, donc c'est peut-être une petite faiblesse. Il me manque peut-être de moments inattendus, tout ça. Mais justement, c'est pour ça que toute sa force se repose sur les personnages puis sur les acteurs qui les interprètent. C'est vraiment solide. Je reviens tantôt à Micheline Langton, parler des cornichons, mais aussi juste quand il parle, ah, elle est bonne, ta confiture.
Ouais, c'est ça,
des moments de vérité. C'est des moments de vérité qui sont en dehors du classique du cinéma d'horreur, mais qui rendent ça extrêmement crédible. Et je pense que c'est pour ça que le film parvient à se démarquer malgré tout. Parce que, comme je dis, il marche dans des sentiers battus, mais il y a des petits moments de vérité comme ça qui ressortent, qui en fait un film qui est quand même assez singulier. Mais c'est sûr que ça l'empêche pas de, on t'en parlait tantôt, tu trouves que la mort du jeune garçon est un peu pas ridicule, je sais pas comment te qualifier ça, mais dans le fait que, tu sais, il aurait pas dû faire ça, il aurait dû le descendre. Mais je reviens à celle de Didier Lucien, c'est la même chose. C'est un peu cave, la manière qu'il meurt, il marche dans le bois tout seul. C'est des défauts qu'on retrouve dans beaucoup de films d'horreur que malheureusement, je pense que Robin Humbert aurait pu ne pas répéter, puis dans lesquels il, mais c'est des détails. On s'entend que c'est des détails, c'est pas suffisant pour vraiment m'avoir tué mon plaisir.
Alors, tu viens de me rappeler quelque chose quand tu as mentionné la mort de Didier Lucien. Il fallait absolument que j'en parle aussi, toujours dans la mise en scène de Robin Aubert. Il nous montre des images extrêmement effrayantes et inquiétantes, je trouve. T'sais, pas dans l'image horrifique, ni rien, juste des petits moments comme « Oh oh ». Je pense, par exemple, un exemple que je peux donner de ça, c'est dans The Shining, quand le petit Danny tombe sur les deux jumelles dans le fond du corridor. Tu as une petite image de « Oh non ». Tu sais, quand tu vois ça, t'es comme « Mon Dieu, t'es pris de court ». Mais les affamés en beaucoup. Mm-hmm. Je pense aussi à ce moment-là où Didier Lucien tombe sur une jeune fille, puis on dirait sa mère de loin, dans le fond d'un chemin de forêt. Ça m'a fait exactement le même effet. Il y en a beaucoup des images comme ça, juste qui font comme « Oh, que je veux pas me trouver là ».
On dirait des apparitions fantomatiques.
C'est ça, bingo, c'est exactement ça le terme, parce qu'il y a pas de sang dans ces apparitions-là. Je pense encore aussi, à un moment donné, dans le brouillard, le personnage de Brigitte Poupard qui entend un bébé pleurer, puis finalement, on voit juste une femme zombifiée assise en indien, qui a une petite poupée, attire la corde, puis la poupée émet un cri. Dans la vraie vie, on partirait tout en courant, en faisant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas voir ça! » Alors, chapeau encore une fois pour ça, des images d'inquiétante étrangeté, des images fantomatiques qui réussissent à mettre un peu la chair de poule, à créer cette...
Un tout film fantastique, ça fait partie de l'essence du film fantastique, justement, cette inquiétante étrangeté, ces moments qui sont difficiles à expliquer.
Qui sont plus viscérales qu'explicatifs.
C'est ça, qui sont pas axés sur la peur ou axés juste sur des jumpscares ou quoi que ce soit, là, t'sais.
Bien sûr, c'est un film de zombies, ça nous prend du gore et des maquillages convaincants.
Idéalement. C'est pas toujours le cas, mais idéalement.
Effectivement, mais tu sais, si on peut se le permettre dans une production, tu sais, pourquoi pas en mettre? Et ben, les affamés fait pas exception à ça. On a du gore, on a des effusions de sang, on a des maquillages très très bien faits de ce côté-là. Mais je voulais commencer à parler un petit peu de nos zombies, de leur maquillage, parce que ce qui est bien, c'est qu'on est loin des zombies de Romero, on est loin des zombies, admettons, de Return of the Living Dead, qui sont en pleine décomposition. On est loin des zombies de Walking Dead aussi, toujours en pleine décomposition. Mm-hmm. On est plus dans, comment dire, le ton de peau un peu malade. Ces gens-là ont l'air malades, littéralement. Puis aussi, on a l'impression qu'on est vraiment au tout début de cette invasion-là, de cette épidémie-là, où est-ce que, peu importe ce qui a causé les gens à se tourner en ces créatures-là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Le corps n'a pas commencé à montrer tant de signes de décrépitude que ça.
Mais c'est la question, est-ce qu'ils sont morts aussi? Parce que c'est pas clair nécessairement qu'ils passent par, ce que je reviens tantôt, le classique du zombie, passer par le passage du trépas avant de devenir une créature, parce que pour le personnage de Luc Proulx, par exemple, ça se fait assez rapidement. Oui, il est blessé, oui, il devient malade peu à peu, mais il devient un zombie ou en tout cas, peu importe,
d'ailleurs,
assez
on
rapidement.
On va s'entendre sur zombie, OK?
Mais, puis c'est la même chose pour le personnage de Brouillette. Il se fait attaquer, puis tout de suite après, il les attaque sur le camion, tu sais. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se décomposer, parce que peut-être qu'ils ne sont pas en réalité morts.
Et aussi, ben, on a quelques moments de bonbons que les amateurs de gore ben, vont toujours adorer. Je parle beaucoup des scènes avec Brigitte Poupard, surtout à la fin dans le brouillard, où est-ce que c'est elle contre une horde de zombies, et bang, elle donne des coups de machette, il y a des décapitations, des machettes dans le vent, des jambes coupées, tout ça. C'est bien fait.
Ah, c'est digne de Braindead, la sphère asperger de tout bord, de côté.
Gracieuseté de nos amis les Gore Brothers au Québec, puis aussi, il y a un merveilleux plan très simple. Quoi, c'est une grosse effusion, un gros geyser de sang, puis on voit les mains levées en adoration devant ce geyser. Ça fait très, à mon sens, un petit peu Evil Dead également.
Les têtes qui éclatent aussi. Il y a au moins deux plans. Ben, celui où Brouillette se fait éclater la tête dans le camion, qui est quand même très réussi. Puis un autre moment donné, je me souviens plus, je pense que c'est justement le jeune garçon, quand il rencontre Luc Proulx. Il tire sur deux, il y en a un qui se fait tirer plus en poitrine, et il y en a un qui se fait tirer à la tête, et il y a vraiment... Un beau éclatage de cervelle assez efficace.
Un maquillage que j'aime bien aussi, c'est malheureusement notre amie Micheline Lanteau, Pauline ne survit pas, puis elle survit momentanément à une attaque qui lui arrache la moitié du visage, qui lui lacère la moitié du visage, très bien fait également. Même moi, tu sais, qui est un habitué des artifices dans le cinéma, en voyant ce maquillage-là, j'ai fait ça a l'air de faire mal, ça a pas l'air très agréable
ça
à vivre.
Très bien.
Très très bien fait, très convaincant. Honnêtement, l'aspect du gore, des maquillages, ce n'est absolument pas une faiblesse de ce film-là, honnêtement. Non. Quand ils sont utilisés, ils sont bien utilisés, ils sont convaincants. Moi, c'est dans la ligue de tous les films de zombies.
Ne pas absolument
qualité.
Pas être gêné par rapport à d'autres
films.
Non,
au Québec, absolument, on a tout ce qu'il faut absolument pour arriver au niveau de tout le monde qui font des films de zombies. Ça, c'est clair à 100%. J'en ai parlé un petit peu dans mon introduction quand je racontais la première fois que j'ai vu Les Affamés. Faut qu'on parle un peu de la conception sonore de ce film-là. Moi, honnêtement, je la trouve à glacer le sang. Mm-hmm. C'est merveilleux. Les cris des zombies, l'ambiance sonore, des fois juste des silences qui sont mis avant un effet choc ou juste pour mettre l'emphase sur quelque chose d'horrifiant, extrêmement intelligent comme conception
sonore. Les silences
sont
aussi efficaces que les moments où justement les créatures crient. Il y a beaucoup de silences en fait dans le film. Puis ça fait partie en fait du suspense. Parce qu'il faut que les personnages soient silencieux à plusieurs reprises. Tu sais, on voit très bien quand ils ferment les portes de leur voiture, ils font juste les accoter à peine pour éviter de se faire entendre. Donc, le son est extrêmement important, je dis d'un point de vue stylistique, d'un point de vue formel, mais aussi d'un point de vue scénaristique. La musique, que je ne sais pas c'est qui a fait, mais qu'elle fonctionne très bien. Et moi, il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on survole la forêt à un moment donné.
Ah oui.
Et là, on entend des cris de créatures un peu partout. Ça, c'est une scène qui est très efficace. C'est simple, c'est un petit moment de respiration, si on peut dire. Puis les cris sont particulièrement terrifiants aussi.
Très, très
bien. Je pense pas que c'est uniquement la gorge des acteurs qui a permis de faire ce genre de cris-là. Ce que je disais, il doit y avoir un travail au niveau de la conception sonore qui a permis à ces cris-là d'être aussi puissants et aussi effrayants.
Exactement. Moi, je suis un très, très grand fan de la conception sonore de ce film-là, tellement que j'ai eu la chance l'été passé. De le témoigner à certaines des personnes impliquées là-dedans, c'est la petite anecdote. J'ai eu le plaisir d'être invité au gala des Iris, pas le principal qui passe à la télé, mais l'autre qui récompense plus les aspects techniques et tout ça.
Et ils l'ont gagné, là, justement.
Oui, exactement. Ça a été une razzia, honnêtement, des affamés pour les aspects techniques. Puis après ça, après la remise des prix, bon, il y a le petit cocktail en studio de Radio-Canada. Tout le monde boit à Kim milieu. À un moment donné, je m'en vais à la salle de bain, puis je croise le gars qui avait le trophée pour la conception sonore des Affamés. Je l'ai accosté, puis je lui ai dit merci. Honnêtement, j'ai vraiment dit mon respect pour la conception sonore, ce que ça m'avait fait sentir, quel beau travail ça avait été fait avec amour, avec soin, avec vraiment tout pour stimuler l'effroi. Puis le gars était bien content, honnêtement, de mon petit témoignage. Et ben, en tout cas, je suis content d'avoir eu la chance de le dire, là.
Mais c'est ça que je vois, le son pour la musique. Puis là, bon, je vois le nom, c'est Pierre-Philippe Côté, en fait, qui a fait de la musique. Puis les maquillages qu'on parlait juste avant, ils ont tous gagné l'Iris, en fait, pour tous ces départements-là.
Aussi, ce qui est bien, c'est surtout quand tu l'écoutes dans la pièce musicale qui a été choisie pour le générique de fin, la composition, la bande sonore par le compositeur, il a inclus vraiment, pas juste de l'instrumental, mais il a beaucoup mis de bruits humains dans sa composition sonore aussi, des bruits de zombies, etc., des bruits des créatures, le fameux cri dont tu parles. C'est vraiment tout mélangé dans les partitions musicales aussi pour donner vraiment quelque chose de très hétéroclite, vraiment une signature sonore unique. Fait que chapeau également pour la musique de ce film-là. Faut parler de l'onde de choc maintenant, d'après sortie. Parce que, bon, l'histoire des Affamés ne se termine pas juste après sa sortie en salle. Il y a eu des répercussions, honnêtement, assez positives, puis certaines qui ont jamais été vues dans le cinéma québécois et où le public a eu la chance d'intervenir. Bon, faut parler en premier des récompenses, bien sûr. Au départ, ça avait gagné le premier prix, c'est à Toronto, le prix du meilleur film canadien.
Meilleur film canadien, oui.
Ensuite, au Festival du Nouveau Cinéma, le prix du public, puis par la suite...
Pour la section Temps Zéro.
Exactement, oui. Puis quand les Iris sont arrivés, justement, là, ça a fait une razzia dans les catégories techniques et dans la catégorie principale. Meilleur film, meilleure réalisation.
Est-ce qu'il y a les deux prix, disons, principaux après lesquels les productions courtes, meilleur film, meilleure réalisation? Quand même meilleur second rôle aussi pour Brigitte Poupard. Donc, c'est tous des prix assez importants parce qu'on a parlé de ceux techniques, mais effectivement, ceux-là, c'est des incontournables. Bon, Micheline Anctot n'a pas eu pour le meilleur rôle principal. Au meilleur, c'était second rôle ou rôle principal, je me souviens plus. Mais en tout cas, elle était nominée aussi, puis elle l'a pas eu. Mais effectivement,
c'est un crime.
C'est assez surprenant pour un film de genre comme
c'est
celui-là.
C'est là où je veux t'amener, Jason.
Par contre, c'est pas comme si c'était jamais arrivé. Bon, Louis Cyr a gagné quelques prix à l'époque que ça s'appelait encore Les Jutras. Et c'est un film de genre. Oui, c'est un drame sportif historique. Biopic, c'est une chose, mais c'est pas biopic, je sais pas moi, d'une femme qui a travaillé pour le féminisme dans les années 70. Non, c'était quand même un drame sportif à la Rocky, à la limite, axé dans une époque du 19e siècle. Donc. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui s'était plaint. Oh, un film commercial qui gagne les Jutras. Pourquoi? Ce qui est probablement arrivé avec Les Affamés aussi. J'ai peut-être juste moins vu ça passer. Et si je me souviens bien aussi, parce que là, ça me vient en tête là, mais Post-Mortem de
Louis Bélanger.
De Louis Bélanger, si je me souviens bien, il avait gagné aussi des Jutras, si je me trompe pas. Et bon, on est carrément dans un film fantastique, là. Mais n'empêche, c'est pas une première. Mais comme ça arrive pas souvent, puis que là, on s'entend en plus un film de zombies, c'est un genre qui est un peu même essoufflé, là. On en a un petit peu eu trop dans les années 2000. C'était quand même intéressant de voir Robin Aubert gagner pour ça. C'est juste qu'à chaque fois que ça se produit, c'est comme si c'était la première fois, et c'est ça qui me tape ses nerfs un petit peu, tu sais. Je veux dire, c'est pas les premiers films de genre québécois, comme s'il y avait jamais eu d'autres films de genre québécois. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont été faits en anglais. Mais depuis les années 70, au Québec, on fait du cinéma de genre. Qu'on pense à Gina de Denis Arcand, qu'on pense aussi à L'Ange et la Femme de Gilles Carle, qui était avec Carole Laure et qui avait gagné le prix Avoriaz. Je sais pas si tu connais Avoriaz, mais c'était le festival de cinéma fantastique. Je pense que c'était en France. En tout cas, bref, c'était en Europe. C'était le festival de films fantastiques à une certaine époque.
Peter Jackson a fait ses classes à une certaine époque.
Gilles Carle a gagné un prix là. On peut en nommer d'autres. Rafale, qui est un drame policier que j'adore, du début des années 90. Peau blanche, Discopade, Feuille morte. Bref, tu sais, il manque pas de films de genre. C'est juste des fois, on a souvent l'impression que c'est juste les adaptations de Patrick Sénécal. Mais ce n'est pas vrai. Il y en a eu d'autres. C'est peut-être juste parce que l'horreur est peut-être moins souvent au rendez-vous. Parce que là, j'ai nommé des films de genre en général. Là, effectivement, peut-être que c'était la première fois qu'un film d'horreur avait cette reconnaissance au niveau de nos institutions.
Ouais, ben tant mieux honnêtement, parce que le film a des qualités indéniables qui d'habitude on donne des prix pour ça. Ben je suis bien heureux que le fameux snobisme des institutions puis des décideurs par rapport aux films de genre au Québec a été mis de côté. Puis
je pense pas qu'on en est totalement sorti là. Il y en aura encore. Puis Robin Aubert, en passant, je pense qu'il a fait du financement participatif là pour pouvoir financer son film. Donc c'est pas uniquement ou grâce aux institutions qui le fait non plus. Donc je pense que du snobisme, il y en a encore, mais c'est peut-être moins pire qu'à une certaine époque.
Bon, au moins, le film de genre québécois va prendre cette victoire-là sans aucun problème.
Oui, on les prend, c'est sûr.
Ensuite, parlant de l'onde de choc, il est arrivé un petit quelque chose dans lequel le public a eu son mot à dire. Au départ, les distributeurs des affamés, sachant que quand un film québécois sort en Blu-ray ou en DVD, ça ne vend pas malheureusement très très bien, ben ont décidé d'y aller finalement avec l'option qui est à moindre coût, c'est-à-dire d'offrir le film en achat numérique seulement sur les plateformes, admettons iTunes, Google Store, PlayStation Store, donc t'as fait de l'usage pour avoir le film.
Ou au Québec, Illico et d'autres. Là.
Et là, bon, le public étant maudit à cause de ça, voulait vraiment ce film-là, posséder le film sur un support physique, Blu-ray, DVD, peu importe, mais au moins avoir le support physique à mettre dans sa bibliothèque pour être consulté.
Cinéma d'horreur, hein, ça intéresse qui? Les geeks. Puis les geeks, on aime bien ça, avoir des objets.
Mais exactement.
On s'achète des figurines, on s'achète plein d'affaires inutiles, et donc, au bout de la ligne, on aimerait avoir un format physique de ce genre de film-là aussi.
Bingo. Et, ben, il y a eu une campagne, les gens se sont fait entendre, ils ont vraiment dit, regardez, on veut vraiment un Blu-ray de ce film-là, sortez-nous-le. Puis finalement, le distributeur, ben, a acquiescé. C'est ça qui est le fun, et moi, je me souviens pas d'un autre moment où c'est arrivé.
Ben, disons que c'est quand même assez nouveau qu'un film ne sorte pas sur support physique. La plupart des films québécois sortent encore ou sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça sur des supports physiques. Disons que c'est une démarche qui est assez récente, donc c'est peut-être normal que ce soit la première fois que ça se produise. Puis comme je dis en plus, vu que là on parle de films d'horreur, qu'on s'adresse à un public qui aime beaucoup posséder certains objets, que ce soit les Blu-ray, etc., ça explique peut-être cela. T'sais. Par contre, c'est un peu dommage que cette sortie-là ait été limitée chez Renaud Bré et Archambault.
Ça a été chez des détaillants exclusifs. Oui.
C'est ça, parce que bon, Renaud Bré et Archambault ne tiennent pas des clubs vidéo et il en reste très peu, mais moi, je suis allé au club vidéo pour pouvoir le louer avant de pouvoir le louer sur PlayStation Store et je n'ai pas pu, malgré la sortie du Blu-ray, parce que c'est ça.
Il y a aussi une autre bonne nouvelle qui contribue au rayonnement du film, c'est son achat à la fin 2017 par Netflix, qu'il rend disponible pour le visionnement sur sa plateforme depuis à peu près 2018 dans beaucoup de pays. Ça, là, c'est vraiment génial selon moi parce que c'est une des meilleures choses qui pouvait arriver pour que Les Affamés puissent être découverts par le plus de gens possible. Surtout que, ben, pour un film québécois, c'est plutôt rare ce traitement-là.
Oui, ben, en fait, Netflix, ça fait un an qu'il est disponible sur le marché international. Au Canada, le film est encore bloqué, en fait, au niveau des droits. Il y a beaucoup de monde qui se sont plaints de ça. Personnellement, je comprends pourquoi le film n'est pas disponible aussi rapidement au Canada, malgré le film que ce soit un film québécois. Mais c'est parce que, premièrement, Netflix fait une compétition déloyale. Hein. On a entendu parler énormément avec toute la question au niveau du fédéral qui est complice, en fait, de ce côté déloyal-là de Netflix qui, bon, on ne paye pas de taxes. Là, c'est rendu qu'ils payent des taxes au provincial. Je sais qu'il y en a qui se plaignent. Même chose avec le PlayStation Store. Mais les films me coûtent plus cher depuis que, juste à cause de la TVQ. Mais n'empêche que je comprends quand il y a des diffuseurs, tu sais, super écran, souvent mettre de l'argent sur les productions québécoises. Québécois aussi avec Illico, je comprends qu'ils demandent une exclusivité. Donc, c'est sûr que c'est plate. On se dit, ouais, c'est accessible à tout le monde sur Netflix, sauf à nous, c'est niaiseux. Mais de toute façon, quand on regarde la sélection sur Netflix au Canada, en général, comparativement aux États-Unis ou à la France, il y a beaucoup de titres qu'on n'a pas. Puis ça, c'est pas uniquement à cause des exclusivités. Faudrait voir un peu pourquoi on a aussi peu de choix sur cette plateforme-là comparativement à d'autres pays.
Ben, concernant Les Affamés, ben, raison de plus pour tout le monde d'aller chercher en beau puis s'acheter le Blu-ray, tiens, toi, puis c'est d'être là, on finance ce film-là, on lui dit merci puis on l'a à la maison.
Ça, parce que là, sur Netflix, je pense que la seule chose qu'il y a en ce moment, c'est la série noire.
C'est comme ça que j'ai découvert Série noire.
Ah oui, ah oui, sur Netflix?
Ah oui, oui, sur Netflix.
C'était tardif?
Oui, mais mon Dieu, que l'attente a valu la peine. Je me suis tapé la première saison en un week-end et par la suite, ce qui était le fun, c'est que le timing était bien parce que la deuxième saison sortait sur Toutv. Alors, je me suis abonné à Toutv pour ça. Je me la suis tapé aussi en un week-end. Alors, quelle belle série.
Là. La musique est tellement excellente en plus.
Là, Jason, faut parler du long terme maintenant.
Oui.
Selon toi, le film Les Affamés et tout ce qui compose ce merveilleux produit, est-ce que ça va laisser un héritage au cinéma québécois?
Le fait qu'elle a gagné Osiris, c'est un précédent qui est intéressant pour le cinéma d'horreur en particulier. Pas le cinéma genre en général, mais le cinéma d'horreur. Je pense qu'on parlait de snobisme tantôt, je pense que ça demeure là encore un peu. Est-ce que ça laisse une trace indélébile? Je veux pas, Cronenberg a fait ses films avec des subventions de la Sojic au début. Sojic, c'était comme l'ancêtre de la Sodec, donc les premiers, le Shivers, etc. C'était fait avec des subventions québécoises. Là, il y a du monde qui se plaignait qu'on mette de l'argent public dans des films aussi scandaleux. Mais je pense qu'il faut que les subventionnaires soient plus ouverts aux gens. Moi, je me souviens, j'ai soumis monnaie à la Sodec et là, on me disait, ben là, c'est un film d'horreur ou une comédie? Mais là, quoi, ça peut pas être les deux. T'sais, t'as des questions ridicules comme ça où tu te dis, non, ils comprennent rien à ce que tu proposes. Peut-être que mon scénario était mauvais, là. Après ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, quand c'est des prétextes comme ceux-là, tu fais comme, je comprends pas. Puis je pense qu'il y a une part aussi du public, hein. C'est parce qu'on dit, ah, il y a pas assez de cinéma de genre qui est produit au Québec. C'est une chose. Probablement, s'il y en aurait plus, d'après moi, il y aurait un public pour ça. Mais il y a une part de responsabilité du public qui est peut-être pas assez ouvert à la diversité. Hein? On s'intéresse beaucoup à des films de super-héros avant tout, des méga-franchises, que ce soit les Star Wars, tout ça. Donc, on reste en tingrin connu. Ça nous réconforte. Et moi, quand je vois quelqu'un, exemple, qui c'est quoi mon top 3 de l'année, puis là, il me nomme Aquaman, Black Panther et le dernier Avengers, t'as le droit de les aimer, c'est pas... mais que ça soit ton top 3...
Il y a des œillères un petit peu qui
ben
doivent
là,
être
je me dis, il y a quelque chose que t'as pas compris.
Moi, ce qui m'énerve un petit peu, ce qui me fait peur aussi, c'est, en parlant encore, bon, des décideurs, ceux qui ont donné les prix Iris aux affamés, etc., ce qui commence à me faire peur, c'est juste que je me demande, avec la perspective, que peut-être que c'est juste qu'ils se sont dit, bon, regarde, on va faire notre part pour dire qu'on est inclusif avec le cinéma de genre, on va lui donner tous les prix qu'ils méritent, puis après ça, ben, on n'en parle plus, on s'en lave les mains. Tu sais, si un jour, quelqu'un dans 25 ans nous dit qu'on supporte pas le cinéma de genre, ben, on va encore une fois leur répéter qu'on a donné plein de prix aux affamés. Alors, ultimement, ce qui me fait peur, c'est que des films comme Les Affamés ou un film, admettons, littéralement d'horreur produit au Québec avec toutes les subventions nécessaires pour ça, qu'on voit pas ça avant un sacré bout de temps.
Si je me trompe pas, les Iris, c'est donné par les gens de l'industrie. Mm-hmm. Donc, que ça soit des réalisateurs, des... je sais pas si ça marche par département. Donc, les scénaristes donnent les prix, votent pour le prix en scénario ou quoi que ce soit. Je pense que aussi, Les Affamés ont réuni des artisans pour lesquels les gens de l'industrie ont un capital de sympathie. Robin Aubert, Micheline Langteau, Brigitte Poupard, Mokri. On s'entend que c'est un casting de malade. Et Robin Aubert, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime pas. Vu que c'est un milieu assez petit, c'est une question de clic. Je pense que Les Affamés a été avantagé pour ça. Je dis pas qu'il mérite pas le prix. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis que ça peut avoir joué dans la balance. Donc après ça, quelqu'un arrive avec un film de genre, mais que c'est un réalisateur inconnu avec des acteurs pas particulièrement connus non plus, ou un réalisateur au contraire qui a tendance à brasser la cage, peut-être qu'il y aura pas la même considération. Donc je pense pas que c'est une volonté, parce que c'est le problème avant tout. Je pense pas que c'est les gens de l'industrie. Ben je dis dans le sens les artisans eux-mêmes. C'est beaucoup les subventionneurs qui sont quoi? C'est des fonctionnaires qui sont pas mal les seuls, comme Jean-Claude Lauzon qui disait ça à une entrevue avec Anne-Marie Dussault dans les années 80. C'est qui vit du cinéma au Québec? Ben, c'est la secrétaire à la SODEC, puis c'est ceux qui travaillent là. C'est eux qui véritablement vivent du cinéma au Québec. Les autres survivent un peu ou survivent grâce aux productions américaines quand on parle de techniciens. Mais c'est avant tout ces institutions-là qui parviennent, eux, à se loger, nourrir, etc. avec l'argent public. Donc, je pense que c'est là que le bas blesse. Au bout de la ligne, on continue à faire plein de bonnes choses pareilles. Mais on pourrait peut-être en faire plus ou mieux ou plus diversifié.
Tu lis dans mes pensées. On s'en vient tranquillement vers la fin. Au final, Jason, Les Affamés, est-ce que c'est un film que tu recommandes? Si oui, pourquoi?
Bien sûr, oui. C'est un bon film de genre, c'est un bon film d'horreur, mais c'est un drame solide aussi. C'est sûr que je comprends que ça peut déplaire à certains publics qui aiment pas des films violents, qui vont faire des cauchemars après avoir vu ce film-là. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est un bon drame tout court, donc un large public devrait s'y intéresser aussi. C'est peut-être le cas, d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas vu son Audima, oui, je le conseille. Oui, c'est un film lent, surtout qu'on est habitué aux gros films avec des grosses explosions. J'en reviens à mon histoire de super-héros tantôt. Mm-hmm. Gros films avec des grosses explosions, tu parlais d'images hyper, des montages hyper rapides, tout ça. Là, on est en dehors de ça. C'est sûr que ça va déplaire à certains, mais moi, oui, je le conseille.
Je vais aller exactement dans le même sens que toi, parce que, bon, c'est un film charnière, je trouve. Tu l'as mentionné aussi, il y a un casting absolument incroyable, de toutes les tranches d'âge possibles. C'est vraiment une distribution all-star. On s'y reconnaît beaucoup là-dedans. C'est un film qui est fait avec amour, avec soin, avec justement tout ce qu'il faut pour rendre un film de zombies intéressant à regarder. Bref, c'est fait par des gens talentueux, devant, derrière la caméra. Et faut donner notre appui à ça. Pendant des années, on s'est plaint qu'on n'avait pas ce genre de film-là, c'est-à-dire vraiment dans le mainstream québécois. Il l'avait bien sûr dans le moyen-métrage, le court-métrage, dans les festivals de genre qu'on a ici au Québec, à Montréal. Mais là, on l'a vraiment dans le mainstream, sur nos écrans. Alors écoute, c'est la moindre des choses de le supporter, de le regarder, d'en parler, de le conseiller et d'avoir les discussions qu'on a depuis tantôt sur pourquoi les zombies font ça, pourquoi les monolithes de chaises, etc. Fantastique comme film, honnêtement.
Oui, puis ben, tu sais, du cinéma d'horreur, on en a, comme je disais tantôt. Ça fait déjà 15 ans là, qu'il est sorti Peau blanche, Sur le seuil.
Oui, etc. C'est ça, oui.
Mais c'est peut-être pas des films qui assumaient autant leur identité de film d'horreur. C'est des films que, au niveau de la violence, c'était souvent édulcoré. Peau blanche, il y a des scènes qui auraient pu être beaucoup plus violentes que ça, beaucoup plus assumées, surtout que c'était un drame érotique aussi. Au niveau du cul, ça aurait pu être plus assumé. Même chose sur le seuil. Mon Dieu, il y a une scène de massacre dans une église qui est horrible au niveau de quand tu lis le livre, puis c'est écourté avec des flashbacks super rapides dans le film. Donc, au moins, ce qui est bien avec Les Affamés, il assume totalement ce qu'il fait, que ce soit au niveau de la violence, au niveau du côté effrayant. Donc, ça, c'est un plus-value.
Avant qu'on se quitte, écoute, je veux qu'on s'amuse un petit peu, ok? Bon, un peu à la tradition des films de Marvel ces temps-ci, on est tous un peu conditionnés à rester jusqu'à la fin du générique.
Ah oui, c'est vrai.
Eh bien, les affamés nous offrent un petit bonbon à la toute fin. Une fois qu'on a vu la liste des merveilleux artisans qui sont associés à ce film-là, eh bien, il y a une petite scénette dans laquelle on va voir un monolithe de chaises, on va voir les corps un peu zombifiés de Tania et de Bonin. Ils sont devant un perroquet. Un très beau perroquet rouge avec plein de couleurs. Qu'est-ce que ça signifie selon toi?
Hey, j'en ai aucune idée.
T'as
franchement
pas de théorie là-dessus?
Ben, tu sais, là, j'essaie de le voir dans le contexte québécois. En plus, un perroquet, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? La seule chose qui me vient en tête, puis ça peut être absolument pas rapport, c'est en oui. fait c'est que Mordecai Richler avait affirmé, parce qu'il était, il s'opposait à la loi 101, puis il disait, c'est quoi, là, il y a des agents de la loi 101, là, bref, qui allaient venir chez lui pour empêcher son perroquet de parler en anglais ou quelque chose du genre. Mais ça n'a rien à voir, on s'entend. Donc, pourquoi un perroquet? Là, on se retrouve dans le Saint-Martyr des données totalement. C'est vraiment un truc complètement décalé qui, pour moi, j'ai aucune idée.
Ben Jason, moi, je vais te relancer avec ma théorie extrêmement
oui,
okay. bien pensée.
J'ai
attention,
bien
attache-toi à tes bretelles parce que... attends, je vais te surprendre. Le perroquet, là, c'est la cause de l'épidémie de zombies. C'est à cause de lui. Et là, on voit, encore une fois, les deux zombies de Tania et de Bonin. Ben, ils sont là pour rendre hommage à leur maître incontesté. Le cerveau pensant de cette prolifération de zombies, c'est le perroquet.
C'est un oiseau exotique qui a été amené avec une maladie, c'est ça
là, si tu regardes là aussi pour prouver que le perroquet, c'est lui le méchant, là, il regarde de gauche à droite. Tu sais, comme n'importe quel vilain le ferait, là, il regarde vraiment de manière suspicieuse.
Ouais, mais moi, je fais ça en traversant la rue aussi, regarder à gauche à droite, puis c'est pas parce que je suis un vilain.
Quand on te connaît pas, on pense que c'est toi le vilain, là, c'est clair.
Ah, ok, c'est... ben, pourquoi pas?
Tant qu'à avoir une explication, ben voilà, c'est la mienne. Peu importe, c'est libre interprétation, puis on peut s'amuser avec le pourquoi du comment de cette scène-là. Et Jason, j'ai aussi un petit bonus à offrir à toi et à nos auditeurs. L'autre jour, en regardant le générique de fin du film, j'ai été pas mal surpris de reconnaître le nom d'une de mes connaissances dans la liste de l'équipe de figurants qui ont interprété des zombies dans les différentes scènes. Alors, tu sais que je recule devant rien pour constamment améliorer la qualité du contenu de ce podcast, donc j'ai pris une chance puis j'ai demandé à mon pote Maxime Godin-Mona si ça lui tentait de m'accorder une entrevue éclair pour me parler de son expérience de jouer un zombie sur le plateau de tournage des Affamés. Et il a accepté mon invitation en temps de le dire pour vous partager les détails de son expérience. Si vous le voulez bien, on écoute ça tout de suite. Ben Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super smart de ta part. Alors ben écoute, on va commencer immédiatement sur les chapeaux de roue, si tu le veux bien. Comment t'as été amené à joindre l'équipe de figuration du film Les Affamés?
Ben j'ai vu passer ça sur Facebook, ils ont fait une annonce là au début, quand ils commençaient leur projet, comme quoi qu'ils avaient besoin de publicité, puis un peu, je pense qu'ils faisaient un GoFundMe ou quelque chose du genre. Fait que là, ils ont dit, si vous forwardez notre annonce, vous pouvez dire bonjour, j'aimerais ça participer, on entrait dans un concours, puis une fois que ça a été fait, ben j'ai reçu un email une couple de mois plus tard, comme quoi j'avais gagné, prenez 100 personnes, puis j'allais faire un zombie sur le film.
Parlant de ça, c'est dans quelle scène qu'on peut te voir?
C'est une scène où, c'est vers la fin du film, où maintenant, ils sont comme dans le champ où il y a les grandes tours de chaises et tout ça. Puis là, ils sortent du bois. Puis là, ils regardent au loin, puis il y a comme une horde de zombies qui arrivent puis qui courent vers eux. Fait qu'il y avait beaucoup de fumée dans la scène. Et c'est dans cette scène-là où j'étais. Mais comme quand j'ai vu le film, on voyait que c'était très rapide, donc c'était très difficile là, de se voir.
Combien de temps ça prenait normalement pour faire ton maquillage de zombies?
Vu qu'on était des zombies, nous autres, je pense... Dans les productions zombies, t'as tout le temps les premiers que tu vois, puis c'est le deuxième, troisième, puis les derniers. Moi, j'étais dans les derniers, fait qu'on n'était pas dans les personnages de zombies qui avaient les plus détaillés. Donc, le maquillage a pris peut-être 10-15 minutes, là, au max.
Puis, il consistait à quoi, ton maquillage?
Tout ce qu'il faisait, c'est nous faire l'usage avec un produit quelconque et des vêtements déchirés, et ça ressemblait pas mal à ça, là.
C'était quoi les indications qu'on te donnait sur le plateau, tu sais, pour te faire entrer dans ton rôle de zombie? Est-ce que c'était Robin Aubert qui te les donnait ou c'est un des assistants réalisateurs?
Je l'ai juste croisé quand on est arrivé à la scène en tant que tel. Tout le long, on a entendu longtemps. Et c'est plus une assistante là, qui venait nous voir, qui nous expliquait un peu ce qu'il voulait. Puis dans le fond, nous, ce qu'on allait faire, c'est juste une scène où on allait être une horde de zombies qui allait courir après les deux protagonistes.
Toi, t'as-tu ta petite théorie personnelle pour expliquer pourquoi les zombies du film se promènent avec des objets personnels pour faire des tours qui émettent des sons stridents qui est un petit peu jamais expliqué, mais tout le monde a sa théorie, as-tu la tienne?
Je te dirais effectivement que le film est pas dans le genre traditionnel du zombie qui est complètement amorphe, qui est juste bâti par ses pulsions, puis qui, dès qu'il voit un morceau de viande, il capote. Lui, on dirait que c'est plus peut-être une critique de la société, mais c'est tout le temps un peu ça, les films de zombies, mais peut-être par rapport au matérialisme qu'il veut amener dans son film, mais c'est très difficile à dire. Des fois aussi, je trouve, c'est le fun d'avoir un peu de mystère, puis de pas tout le temps savoir là, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le fond, tu laisses la personne, puis tu laisses le spectateur imaginer sa propre théorie.
Puis combien de temps duraient tes journées de tournage sur le plateau? T'as dit que c'était une journée, vous étiez là pour combien de temps?
Ça a été une journée, on est arrivé quand même assez tôt le matin, puis on est parti, je suis parti vers 5 heures de l'après-midi. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. La scène a duré 15-20 minutes okay, de préparation.
Fait que je souhaite que c'était pas une journée chaude et humide comme on connaît bien au Québec. Là.
C'était, je te dirais, une belle journée d'automne que ça s'est fait. Donc, il faisait beau, mais quand même un petit peu d'air frais. Donc, on était quand même assez bien, là.
Fait que là, si, vu que t'étais pas mal VIP sur le plateau de tournage, peux-tu nous dire, genre, s'il y avait des scènes ou des moments que t'as tourné ou que t'as vu qui ont pas vraiment fini dans le montage final du film?
C'est difficile de répondre à cette question-là parce que on n'a pas eu accès vraiment à grand-chose, comme la gang de figurants, pour cette journée-là. Je sais qu'il y a des scènes qui sont tournées le matin, plus tôt avec les comédiens, mais c'était pas nous qui étions sur ces scènes-là. Nous, on a vraiment été là pour la grosse scène où il y avait à peu près une cinquantaine de zombies qui allaient courir en leur direction. Puis toute la journée, on a entendu après eux autres. Fait qu'en fait, notre journée, c'était d'attendre. Puis on avait dans l'attente, ce qu'il y avait de drôle, il y avait comme une pile de corpse en plastique. Puis toute la journée, dans le fond, on s'est amusé avec ça à faire des photos, puis à faire des espèces de montages, de comme quoi on mangeait des cerveaux, whatever. Mais en tant que tel, on n'a pas vu grand-chose là, du plateau.
Entre les prises, as-tu pu te promener un petit peu, saluer certains des acteurs ou quelque chose
de genre? Pas vraiment du tout, parce que ils étaient carrément séparés de nous.
Okay.
Nous autres, on était mis dans une autre tente, puis malheureusement, on les a pas vus.
Toi, tu m'as appris un petit quelque chose sur l'affiche principale du film que tout le monde connaît. Ben, apparemment, on te verrait, ça se peut-tu?
Oui, tout à fait. C'est là qu'on me voit le plus dans le film, en fait. C'est
dis-moi donc, où est-ce qu'on peut te trouver?
Ouais. Ben, il y a l'affiche où ce qu'on voit, c'est Marc-André Grondin qui est là, puis qui tient l'enfant dans ses mains. Puis là, juste quand il nous regarde, à gauche de sa tête, on voit une silhouette là dans le brouillard. Puis, si les gens qui me connaissent, ils vont remarquer que c'est moi qui est juste à côté, là.
Fait comme ça, moi, je peux t'amener mon poster pour que tu me l'autographies, c'est ça?
Ah, si tu veux.
Excellent, avec plaisir. Un énorme merci, Maxime, d'avoir participé à cette entrevue-là, de nous avoir donné un petit regard VIP sur ton expérience de figurant sur Les Affamés.
Ça fait plaisir, merci.
Jason, c'est presque fini pour aujourd'hui, mais je peux pas vraiment te laisser partir sans qu'on aborde le traditionnel segment que j'ai baptisé pour aujourd'hui, Savais-tu, Jason? Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, j'ai été vous chercher certaines petites histoires des coulisses du film Les Affamés qui sont pas nécessairement connues de tout le monde et que j'ai envie de vous partager. Vous êtes prêts? On commence! Savais-tu, Jason, que Robin Aubert a toujours été un amateur de films de zombies, surtout du film Dawn of the Dead de George Romero et du vidéoclip de Michael Jackson, Thriller. Ça l'a même amené à aller personnifier Michael Jackson dans des spectacles qu'il donnait dans des foyers pour personnes âgées dans sa jeunesse. Et savais-tu, Jason, que, pour mieux entrer dans la peau de Bonin, son personnage, Marc-André Grondin dit s'être librement inspiré de Robin Aubert, surtout de son penchant à raconter des jokes plates, de son côté nerd, et de sa capacité à faire rire et à émouvoir en une seule phrase.
Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le personnage de Grondin est un peu introverti, et pour avoir déjà rencontré Robin Aubert, c'est le cas également, donc c'est pas fou maintenant que t'en parles.
Mais effectivement, il y a des petites corrélations à faire là-dessus. Eh bien, c'est déjà la fin. Jason, je te remercie énormément d'être venu parler de tous les côtés, de tous les aspects des Affamés en ma compagnie. Ça a été vraiment un luxe de t'avoir aujourd'hui et j'espère vraiment qu'on a donné le goût au public et à nos auditeurs d'aller voir les Affamés et ou bien de le revisiter aussi un peu avec notre point de vue pour les aider justement à parfaire un petit peu leur connaissance de ce film-là.
Bien, ça m'a fait plaisir.
Alors, en mon nom personnel, Sébastien Bourget, je suis en compagnie de Jason Paré. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sans Commentaire ou presque.